Chapitre 24. Rue de la Monnaie, enfin. Portable à l'oreille, le capitaine Ravies battait les plus anciens pavés du vieux Lille d'un pas de buffle. Bien entendu, il râlait. Lucie s'adossa à une façade d'antiquaire. En figeant l'instant, elle aurait pu devenir le personnage en lumière d'un vieux tableau flamand, tant il régnait dans ses ruelles l'atmosphère des époques sombres et oubliées. « Ça devient difficile !» s'énerva Ravies en empochant son portable. « On prive les hommes de leur congé et on leur demande de se couper en quatre. Interroger le personnel licencié par la veuve Cunard, enquêter dans la zone industrielle, fouiller aux abords des points d'eau conjointement au peloton de gendarmerie, sans oublier les recherches à partir d'une source infinie de fichiers informatiques et l'élaboration d'une liste de vétos qui ont commandé de la tylétamine ces derniers mois. Il nous faudrait le double de ressources. À propos, que donne la piste des vétérinaires ? Une vaste embrouille. Pour le moment, presque tous les vétos recensés commandent fréquemment de la tylétamine, hormis quelques-uns qui utilisent de la kétamine. Toutes nos lignes d'investigation partent en vrille, noyées dans la masse. » Lucie embraya sur un sujet qui la taraudait. « Norman se débrouille avec la liste des licenciés de Venise ?»« Parti sur place interroger le directeur de l'agence nordiste de l'entreprise. Il a le même sentiment que toi sur cette coïncidence troublante. C'est plutôt bon signe, mais là encore, une centaine de personnes a filtré. Pourquoi rien n'est-il simple dans notre métier ?» Le capitaine orienta sa moustache en direction d'une porte massive. « Allons rencontrer ce Léon, en espérant que les intuitions de ton vétérinaire vampire nous mèneront à bon port. » À voir l'étroitesse de la façade et le propriétaire, le fameux Léon, qui sentait le renfermer à plein nez, il sembla à Lucie qu'elle s'apprêtait à empiéter sur le territoire cloisonné et secret d'un rat en fin de vie. Le taxidermiste ressemblait au fidèle serviteur Nestor des albums de Tintin, tout en raideur, mono-expressif, engoncé dans un costume rayé trois pièces qui, à défaut d'élégance, offrait au personnage la prestance d'un conservateur de reliques. Ils traversèrent un premier local, une sorte de hall ennobli qui les jeta sous un gigantesque dôme de verre lancé au ciel par une architecture complexe, tout en jeu de courbes et de ruptures. Léon y préservait, sous une chaleur artificielle, une jungle tropicale où plantes carnivores, yuccas, lianes, palmiers et brassées de fleurs des îles comblaient l'espace d'entrelacs des paysans.
L'Amazonie à Lille, pourquoi pas des ananas au pôle Nord? On aura décidément tout vu.
L'arche de verdure déversait sa chlorophylle dans un tunnel qui ouvrait sur un second bâtiment de taille modeste, une salle parée de voiles, de faïences, d'orfèvrerie, de marbre translucide et de meubles anciens qui suggéraient une cour royale. Un dédale alambiqué de passages, de galeries en pierre, perdit les policiers dans le poumon de l'habitation fragmentée.
« Faut être spéléologue chevronné pour trouver son chemin dans cette maison, » plaisanta Ravies.
« Je comprends que cette construction atypique vous étonne, » miaula Léon en servant trois verres de vin. « N'oublions pas que l'île était, comme son nom l'indique, une île. À la fin du XVIIe, la ville enserrée dans ses remparts contraignait à construire front à la rue. » On bâtissait des habitations peu larges, tout en profondeur, avec des pièces de taille croissante que l'on reliait par des galeries. On appelle ça le double parcellaire, un système identique aux poupées gigognes. Vous savez, ces demeures sont, en définitive, à l'image des gens du Nord, façade sans fioritures, mais grande générosité intérieure.
Ravies se gratta le menton. Léon tendit les verres de Bordeaux qu'ils n'eurent pas l'audace de refuser. Lucie se demandait quel rapport obséquieux cet être mondain entretenait avec la chauve-souris du zoo. Peut-être un culte pour la différence, ou l'amour des animaux, façon scalpel. La jeune femme dépeça les lieux d'un œil néophyte, intriguée par les pavés de verre du plafond qui éclataient la lumière naturelle en étoiles translucides. Au pied de l'escalier, son regard bloqua sur des bottes en peau de serpent, façon mafieux mexicain. Qui pouvait porter des horreurs pareilles ? Ravies, en bon flic, s'était chargé de déballer la raison biaisée de leur venue.
J'aime partager mon vin avec des inconnus, en particulier de charmantes jeunes femmes, expliqua Léon en claquant la langue.
Savez-vous pourquoi ?
Lucie leva un sourcil interrogateur.
Ça y est, Léon, le type hyper fringué des soirées de Monsieur l'Ambassadeur, allait se lâcher.
Ce trésor est le sang de mes propres vignobles. Il symbolise le fruit de mon amour pour la terre. Quand mon vin glisse le long de votre palais et coule dans vos veines, c'est un peu comme si je pénétrais en vous. Mais...
Chut. Une présence se découpa dans l'escalier qui dévalait de l'étage.
Une face tirée par la chirurgie esthétique, sur laquelle les années semblaient glisser. Une peau de galet où la moindre ride se voyait traquée à coups de bistouri ou de silicone. L'onde de soie flotta le long de la rampe, doubla l'assemblée dans un nuage de fumée de cigarette et disparut dans une pièce annexe avec un roulement de fesses qui déchaîna la testostérone de Raviez.
« Ne faites pas trop attention à elle, » s'excusa Léon d'un haussement d'épaule. « Elle, comment dire, ne côtoie que ceux de la haute. Elle et moi, on ne fait que se croiser ici. »«
Une pétasse qui pète dans la soie, » pensa Lucie. « Pas trop le style botte à peau de serpent. »
« Je passerai bien mon après-midi à boire du vin, » embraya Raviez, « mais nous sommes en service et vous êtes pressés. Pourquoi les flics évoluent-ils constamment sur un tapis de braise ?»«
Parce qu'une petite diabétique est sur le point de mourir et que nous, on tombe en extase devant du jus de raisin. »
La salle en L dévoila une porte jouxtant une bibliothèque engourdie par la masse des grimoires de taxidermie. Les gonds grincèrent à peine que les narines des policiers se mirent à battre. Le capitaine Raviez confia à l'oreille de Lucie.
« La même puanteur de cuir qui imprégnait les vêtements de la petite Cunard. On est sur le bon chemin. »
Léon invita ses hôtes à pénétrer dans la première pièce. Il émanait de ce Capharnaüm un désordre de fond de grenier. On aurait dit que l'arche de Noé s'était échouée et que les bêtes en fuite avaient été aussitôt pétrifiées par le doigt divin. Les animaux figés braquaient des museaux menaçants, des langues pendantes. Les épées de photons allumaient leurs yeux de verre et lustraient les crocs acérés. Les draperies austères qui ondulaient depuis le plafond coulaient sur des formes trapues, leur conférant l'aspect de fantômes. Dans les angles morts s'entassaient des moules creux, des mannequins poussiéreux, des toiles métalliques, des planches de bois entrecroisées.
« Très impressionnant !» chuchota Raviez en roulant des yeux. « On se croirait au fin fond d'une jungle dont le cœur s'est arrêté de battre. »
Il observa de plus près le poitrail déchiré d'un ours.
« Ces animaux ont un problème particulier pour que vous les entassiez ici ?»«
Ce sont des rebuts, » répliqua Léon. « Des animaux abîmés, ceux dont les musées ou les clients n'ont pas voulu à la suite de problèmes durant la naturalisation. Parfois, les peaux craquent, les poils ne retrouvent jamais leur couleur d'origine ou tombent après un bain d'acide mal dosé. Certains m'apportent des animaux tués à la chasse par une volée de plomb dans la tête ou en plein poitrail. Je tente de masquer les dégâts, mais la mort est un adversaire coriace. »
Il parlait avec le même entrain morbide que Van Boost. Lucie trouvait l'endroit fascinant, étranger au monde de la lumière et plongé dans l'obscurité de l'âme. Fixant les crocs en résine d'un renard, elle demanda
« Comment vous procurez-vous ces animaux ?»
Léon se fit une joie de répondre.
« Les moins courants proviennent de zoos ou de réserves. Ils sont destinés à des musées, comme le musée d'histoire naturelle de Lille, mon plus gros client. Pour les autres, ils sont issus du fruit de la chasse. » Sanglier, cerf, daim, renard, la liste n'en finit pas.
D'où émane cette odeur de cuir ?
Intervint Raviez, piégé entre les pattes d'un ours momifié.
De l'atelier, au fond, ce que l'on appelle le tannage. Un bain d'acide tannique ou de tanin rend la peau plus souple, solide et surtout imputrescible.
Raviez frissonna jusqu'aux extrémités de sa moustache. Un mot venait de résonner dans sa tête.
Vous avez dit tanin ?
Le tanin ?
« Eh bien oui, tanin, tannage, tannage, tanin. Simple comme bonjour, non ?»«
Le tanin issu des vignes, celui que l'on retrouve dans le vin ?»«
Bien sûr. Le tanin est l'un des principaux constituants de base du vin rouge. »
Raviez tapa du poing contre sa paume ouverte. L'évidence fleurissait depuis le début devant ses yeux. Il s'enflamma.
« Dans ce cas, le tanin provient forcément de l'écorce des arbres, n'est-ce pas ?»«
Vous avez raison de le souligner, » approuva Léon. Les nostalgiques, les puristes, extraient encore leur tanin eux-mêmes en broyant de l'écorce. On peut se procurer des bains tout près dans n'importe quel magasin spécialisé, ce qui n'empêche pas certains férus de persister. Vous savez, le taxidermiste est à la fois chimiste, anatomiste, chirurgien, couturier et sculpteur, mais surtout un grand passionné.
Raviez et Hennebelle échangèrent un regard rapide. Le capitaine ajouta
« L'écorce de pin des Landes, type celle que l'on achète en jardinerie, peut convenir ?»«
Évidemment. Tous les arbres produisent du tanin en plus ou moins grande quantité. Le chêne se classe au rang des meilleurs fournisseurs, mais les résineux, genre pin des Landes, peuvent très bien faire l'affaire. »
Tout concordait. Les fibres prélevées entre les sillons des semelles de Mélodie Cunard provenaient d'écorces de pin utilisées pour le tannage des peaux. L'assassin de Cunard avait un penchant particulier pour la taxidermie, cet art de préserver la vie animale au-delà de la mort.
« Bien joué, capitaine, » souffla Lucie au moustachu.
« Votre amour du vin est tout à votre honneur. »
Raviez répondit par un clin d'œil complice. À présent, il ne cherchait plus un simple vétérinaire, mais un vétérinaire taxidermiste, amoureux des bêtes à la vie, à la mort.